En ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth, en Galilée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait, dans le même pays, des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre pour ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers.
Jésus a parlé de sa naissance quelques heures avant sa mort. Ça m'est apparu tout d'un coup clairement en lisant dans Jean 18, le verset 37. Devant Pilate, il dit « Je suis né, je suis né, je suis né et je suis venu dans le monde » pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Ce à quoi Pilate a répondu avec désinvolture, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et Jésus n'a pas répondu à cette dernière question. Il n'a pas cherché à avoir raison. Il n'a pas cherché à avoir le dernier mot. C'est pourquoi nous devons prendre exemple sur Jésus et bien nous convaincre, comme l'a écrit Mgr Lustiger, il n'est pas donné aux chrétiens, en ce temps-ci, la satisfaction d'avoir raison. Il nous suffit de recevoir la grâce du pardon et de la paix. Paix sur la terre. On dit les anges eux-mêmes. Aux hommes, on traduit souvent de bonne volonté, mais c'est faux. C'est aux hommes bénéficiaires de la bonne volonté de Dieu. Aux hommes qui reçoivent cette parole de Dieu. Ils reçoivent la paix. Noël est donc d'après les paroles même que Jésus prononce devant Pilate, la fête d'une naissance qui nous fait naître nous aussi. La fête d'une naissance qui nous fait naître de la vérité. Et cela, nous ne pouvons pas le comprendre avec le bruit qu'il y a autour de la fête de Noël, des cantiques qu'on chante parfois sans même réfléchir. Elle peut s'accueillir dans le silence de la nuit, dans le silence d'un lit d'hôpital, cette grâce de Dieu qui nous fait naître de la vérité. Elle nous fait naître de la vérité. Jésus n'a même pas eu besoin de parler pour que les bergers et les mages comprennent cela. Tout le travail d'évangélisation pour ces gens-là avait été fait soit directement d'en haut par les anges, soit en allant consulter l'Écriture. Les mages à Jérusalem ont consulté l'Écriture, soit par des signes, le bébé emmailloté dans la crèche, ça c'était un signe. Donc leur foi, elle est venue pas par la parole de Jésus, mais par toutes les paroles de Dieu qui sont venues à eux à travers les événements et parfois même avec le ciel ouvert et les paroles des anges qui descendent sur la terre. Et ils sont repartis de cette crèche en parlant, eux. Eux, ils ont parlé, tellement c'était fort. Ils ont parlé à tout le monde qu'ils rencontraient de tout ce qu'ils avaient vécu, de ce bébé qui était né et qui est né pour témoigner de la vérité, pour être véritablement le roi d'Israël. Avec Noël, nous sommes donc devant un témoignage à la vérité. Le mot français Noël, j'ai tapé étymologie Noël sur Internet et puis je suis tombé sur l'étymologie de Noël. Ça vient du latin natalis, qui est devenu en vieux français Naël et en occitan Nadal. Il signifie naissance. Naissance. Il signifie naissance. Noël signifie naissance. Quelle naissance? Seulement celle de Jésus? Ce n'est pas comme ça que la Bible l'envisage. Déjà, dans le premier chapitre de Jean, il y a deux versets qui sont côte à côte, que je vous cite maintenant dans Jean 1, verset 13. Ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont reçu la parole ne sont pas nés des sangs, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir humain, mais de Dieu. Et la parole est devenue chair, et elle a dressé une tente, un tabernacle parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire que Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Voyez que deux affirmations sont posées côte à côte, la naissance d'êtres humains qui sont nés de Dieu, avant même que Jésus vienne. C'est tous ceux qui, en Israël, Abraham, Isaac, Jacob, David, Moïse, ont reçu la parole. Ils sont nés de Dieu. Et ensuite, on y a la deuxième affirmation. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. La naissance de cette parole de la Vierge Marie, faite chair dans le sein de la Vierge Marie, eh bien, cette parole, elle est là pour authentifier qu'il y a eu des naissances d'en haut déjà en Israël. Et aujourd'hui encore, il y a des naissances d'en haut, des naissances, comme dit Jésus à Nicodème, du Saint-Esprit. Israël lui-même, vous savez qu'il est appelé dans le prophète Amos, fils de Dieu. Cette prophétie d'Amos, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, Ça se trouve dans... Qu'est-ce que j'ai dit, Amos? Non, c'est Osée. Prophète Osée. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est une prophétie de Osée 11, verset 1, qui rappelle l'événement historique des Hébreux sortis d'Égypte. Eh bien, ces Hébreux, globalement, sont appelés par Osée, fils de Dieu. Et cette parole d'Osée se retrouve dans l'évangile de Noël de Matthieu. Jésus lui-même, réfugié en Égypte avec ses parents, attend un certain temps que Hérode meure et il remonte d'Égypte. Et s'accomplit encore une fois cette parole d'Osée. D'Égypte, dit Dieu, j'ai appelé mon fils. Vous voyez que Jésus représente la vie d'Israël, fils de Dieu. Il assume le destin d'Israël, il assume aussi les fautes d'Israël, car Israël a écrit une histoire dans la Bible, a écrit sa propre histoire et n'a pas passé sous silence tous les échecs de l'alliance avec Dieu. Israël n'a pas répondu à ce que Dieu attendait de lui. C'est une succession d'échecs, de fautes de la part d'Israël. Mais Jésus prend ses fautes et il va réussir à accomplir l'alliance définitive que Dieu n'a jamais perdu de vue. Dieu a une alliance éternelle avec Israël. Tout cela, je ne pouvais pas vous le passer sous silence, car les textes de Noël nous parlent, même Marie, dans son cantique, elle parle de Dieu s'est souvenu de son alliance avec Israël. Il s'est souvenu d'Abraham, de sa semence, de sa postérité. Il y a un accomplissement à Noël. Jésus, l'évangile ne commence pas avec Noël, l'évangile commence déjà avec Abraham. L'évangile est un accomplissement tout d'un coup de ce que Dieu avait longtemps d'avance annoncé. Et parfois de façon très précise, les événements se sont accomplis comme les prophètes l'avaient annoncé. Noël, c'est donc la naissance du Fils de Dieu, la parole faite chair, et aussi notre naissance en tant que fils de Dieu. C'est un amour inimaginable qui vient à nous, c'est-à-dire l'amour d'un Dieu qui est Père, qui veut être notre Père, et qu'il est notre Père de toute éternité. Nous existions avant de naître, parce que nous étions aimés. Bien des fois, on voit ces paroles dans l'Écriture. Dieu dit à quelqu'un, avant que tu sois conçu, je t'ai aimé. Alors, il n'y avait rien alors? Non, il y avait ce que nous étions dans le cœur de Dieu. Et cet amour est pour toujours. C'est l'amour de Dieu, notre Père. Il est facile de croire en un Dieu transcendant. Encore, il y en a pas tout le monde qui y croit, mais la tendance des gens religieux, c'est de croire qu'il y a un Dieu transcendant. C'est déjà pas mal. Mais ce que la Bible nous dit est encore beaucoup plus incroyable. C'est Dieu qui vient à nous dans la chair humaine. Ça se trouve aussi dans les religions païennes, les dieux qui s'incarnent, qui font un petit tour parmi les êtres humains. Ils font quelques dégâts ou quelques bontés, et puis bienfaits, et puis ils s'en vont, et puis ils retournent dans les cieux. Mais ce n'est pas dans ce sens que Jésus est venu sur terre. La parole de Dieu, elle s'était déjà incarnée dans le peuple d'Israël. Et c'est là l'incarnation de cette parole avec la naissance de Jésus qui accomplit les paroles de Dieu annoncées, données aux prophètes et écrites par Israël. Cette naissance, c'est une naissance en Dieu. Et nous pouvons peut-être penser que nous n'en sommes pas dignes. Mais réfléchissons ce que nous dit le texte. Est-ce que les bergers étaient dignes de recevoir l'annonce, eux en premier, de la naissance du Messie? Est-ce que les mages qui venaient de l'Irak ou de l'Iran, qui étaient des astrologues, ce qui était interdit de faire dans la Bible, est-ce que ces mages étaient dignes? Nous continuons peut-être à penser que la nouvelle naissance n'est pas pour nous, car un jour dans notre vie, nous avons commis quelque chose d'irréparable. C'est vrai qu'il y a des choses irréparables. Le récit de Noël ne le cache pas. Dans Matthieu, je lis au chapitre 2, verset 18, Rachel pleure ses enfants et ne veut pas être consolée. Des enfants juifs sont massacrés au moment où vient au monde le sauveur des Juifs. C'est contradictoire avec ce que Marie elle-même chante dans son cantique. Elle dit « Mon âme exalte le Seigneur, il est venu en aide à Israël, son serviteur, en mémoire de sa bonté. » Cette contradiction perdure. Et néanmoins, la foi est donnée. Nous devrions tous avoir lu au moins deux livres, La Nuit de Elie Wiesel, Si c'est un homme, de Primo Levi. En lisant ces deux livres très courts, vous entendrez le cri de Rachel aujourd'hui. Rachel qui refuse d'être consolée parce que c'est impossible de consoler un tel deuil. Le 8 juillet 2004, au Chambon-sur-Lignon, le président Jacques Chirac a eu cette parole en parlant du décret signé par Pétain à quelques kilomètres d'ici, à Vichy. Il a dit ce jour-là, « L'irréparable a été commis par la France. Par un décret signé de sa propre main, Pétain demandait à Hitler la permission d'envoyer aussi les enfants juifs vers la mort, alors que Hitler n'avait demandé que la déportation des adultes juifs. » Nous voyons, je pourrais multiplier les exemples, nous voyons que Hérode est toujours là. Mais Jésus aussi est là. Et cela veut dire que Dieu ne nous donne pas la foi en dehors des contradictions de ce monde. La foi en Jésus permet de continuer à vivre dans la confiance en Dieu, dans le plein milieu de ces contradictions. La mère de Jésus aura une prophétie terrible au moment où elle apporte l'enfant au temple. Siméon lui dit, une épée te transpercera l'âme. C'est évidemment lorsqu'elle était à la croix qu'elle a vu son fils mourir, l'épée lui a transpercé l'âme. Comme Rachel avait le cœur brisé, transpercé. Mais cette prophétie de Rachel qui s'accomplit quand Jésus naît, cette prophétie concernant Rachel, nous la trouvons dans Jérémie. Il y a une suite à cette prophétie dans Jérémie 31, versets 15 et 16. Jérémie parle au nom de Dieu à Rachel, « retiens ta voix des pleurs, retiens tes yeux. » Des larmes, car il y a un salaire pour ta peine, oracle du Seigneur. Ils reviendront du pays ennemi. Il y a une espérance pour ton futur, oracle du Seigneur, et des fils reviendront à leurs frontières. Il y a une espérance pour ton futur. Voilà ce que nous devons entendre. Nous pouvons être sidérés par le mal que nous avons commis. L'irréparable est fait. Mais Dieu te dit, il y a une espérance. Il y a une espérance pour ton futur. Nous pouvons être venus à la fête de Noël en pensant que, bon, Noël une fois de plus, puis le reste de l'année, ce sera toujours la même chose de toute façon. Noël, c'est une petite parenthèse de douceur, de bonheur, dans un monde qui est de toute façon globalement dur, impitoyable. Pouvons aussi être venus à cette fête de Noël en pensant que c'est quelque chose que les adultes aiment bien, parce qu'ils retombent un petit peu en enfance, ils se rappellent cette période où ils étaient bien encadrés dans le cocon familial, pas de soucis. Mais Noël, c'est pas ça. C'est l'instant qui fonde toute vie possible encore, aujourd'hui, demain encore, et jusqu'à la venue du Fils de l'homme dans sa gloire. Noël, c'est ce message qui demeure. Dieu est ton Père, il veut t'engendrer toujours à nouveau, te réengendrer sans cesse dans sa vie à lui. Il connaît tes défaillances, il est au courant de l'irréparable, mais viens à lui, viens à lui, viens devant cet enfant qui est né la nuit de Noël. N'aie pas peur, cet enfant ne fait pas peur. Viens devant cet enfant qui est menacé de mort, à peine conçu, qui va prendre quelques jours après la route de l'exil, à peine il a été mis au monde. Mais n'oublie pas la suite. Si cet enfant a été préservé, contrairement aux autres de Bethléem, cet enfant a été préservé jusqu'à ce qu'il donne sa vie sur la croix, pour qu'il puisse mourir en t'aimant. Jésus meurt pour nos péchés, sans aucun reproche. Tu n'as plus besoin de souffrir pour tes péchés, de mourir pour tes péchés. De plus, 3 jours après, il est ressuscité pour notre justification. Et maintenant, il est où ? Il est à la droite de Dieu. Non pas pour être débarrassé, pas du tout. Pour être débarrassé de l'humanité, mais pour prier, pour être le garant que notre destinée va aboutir à son terme, qui est d'être nous aussi avec Dieu. Alors refusons la tentation de mépriser une vie humaine, quelle qu'elle soit, voire notre propre vie. La naissance de l'enfant Jésus est là pour nous dire la grandeur de toute vie humaine, y compris la nôtre. Nous ne saurions surestimer la grandeur d'une vie humaine, vu ce que Dieu a fait en envoyant son Fils dans notre chair. La vie est venue vers nous en Jésus, alors nous venons à elle. Notre Père nous accueille comme aucun Père sur terre ne saurait le faire. Et parce qu'il nous accueille, alors commence la fraternité. C'est parce que j'ai un Père et qu'il est le Père d'autres que je regarde l'autre comme frère. Nous avons terminé avec Maurice Galeski l'étude de l'Épître aux Hébreux. Aux Galates. Aux Galates, oui, merci, il y en a qui suivent. Et donc, j'ai appris ce que c'était des Gaulois. Les Galates sont des Gaulois qui avaient émigré en Asie mineure et ils avaient donc été évangélisés par Paul, qui leur avait bien sûr parlé de la croix de Jésus et de l'élection d'Israël. Mais quelques années plus tard, ces églises de Galatie sont en pleine crise. Il y a même le mot au chapitre 3, verset 1, le mot envoûté. Ces chrétiens, tout d'un coup, ont été envoûtés par un autre évangile, par une autre doctrine. Et cet évangile autre ressemble au vrai. Mais il a remplacé la grâce de cet amour paternel de Dieu. Il a remplacé la grâce par la loi. Et à cette nouvelle, l'apôtre Paul est dans les douleurs de l'accouchement, dit-il. Il dicte alors l'épître que nous avons dans la Bible et il prend sa plume lui-même pour écrire la conclusion avec de grosses lettres, parce qu'il avait peut-être des problèmes de vue. Et je vous lis cette conclusion de Galates au chapitre 6. Ce qui importe, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la nouvelle création. Sur ceux qui se conduisent selon cette règle, mot règle est important, selon cette règle, paix et miséricorde, ainsi que sur l'Israël de Dieu, dès lors que personne ne me cause de tourment, car moi je porte en mon corps les marques de la souffrance de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, frère. Amen. Il y a une règle. Ce mot règle, Paul l'écrit lui-même. Il y a une règle dans toute Église. Et il définit cette règle comme étant la nouvelle création. Nouvelle création, nouvelle naissance, c'est la même chose. Naître de Dieu, être créé à nouveau par Dieu en son Fils. Voilà le sens de Noël. Il n'y a donc rien d'irréparable, puisqu'il y a nouvelle création. Le sens de Noël, c'est une règle que toute Église doit suivre si elle prétend être de Dieu. La règle est celle-ci, la nouvelle création. Et ces églises doivent s'attendre à être persécutées pour le Christ. Paul incarne lui aussi cette persécution. Il dit qu'il porte dans son corps beaucoup, beaucoup de marques de souffrance, celles de Jésus crucifié. Mais quelle paix et quelle miséricorde sur les églises qui suivent cette règle. Cette paix et cette miséricorde sont inadmissibles. Je voudrais conclure avec ce mot français qu'on trouve dans le dictionnaire, vous pouvez vérifier, il est rarement employé, c'est pour ça que vous ne le connaissez pas, je l'ai découvert moi aussi, et c'est tant mieux qu'il n'est pas souvent employé car il ne faut pas le galvauder, il ne peut s'appliquer qu'à la grâce de Dieu. Inadmissible veut dire qu'il ne peut jamais être perdu. La grâce de Dieu est inadmissible. Et je veux maintenant faire un jeu de mots avec un adjectif que vous connaissez, inadmissible. Il se peut qu'un être humain, même chrétien, en arrive à se juger soi-même inadmissible, soit parce qu'il a commis des actes inadmissibles, soit parce qu'il se met lui-même sous une parole de jugement. Il estime que sa vie est inadmissible, qu'elle ne vaut rien depuis le début, qu'elle finira mal de toute façon. Que cet être humain prenne bien conscience que dans le mot inadmissible, il y a la lettre D comme Dieu. Que cet être humain sache bien que le Dieu qui est dans le mot inadmissible lui donne aujourd'hui, par la naissance de Jésus, une grâce inadmissible. Une grâce qui ne pourra plus jamais lui être enlevée. Une grâce qui ne pourra jamais perdre par sa propre faute. Car Jésus a assumé toutes nos fautes. Paix et miséricorde, dit Paul, sur toutes les églises qui suivent cette règle de la nouvelle création. La grâce inadmissible de notre Seigneur Jésus-Christ est avec votre esprit, frère. Amen.